Balade gourmande sur RTL
avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Ils sont là, les fantastiques, les fabuleux, le duo magique.
Mais on a que deux.
Oh là là.
Bah oui, mais c'est quand même pas mal. Jean-Sébastien et Louana, comment allez-vous ?
Mais très
bonjour,
bien.
Bonjour Agnès, ça va ?
Alors oui, bah, tout va bien. On rappelle avant de débuter qu'il y a trois guides du routard, comme d'habitude, à gagner. Hein, si vous répondez à la question au 32-10 à la fin de cette chronique. Et attention, direction l'Italie ce matin, j'adore. Pour une balade, on ne peut plus gourmande au pays de la truffe blanche, la fameuse truffe d'Alba. Mais cela se trouve où d'abord ?
Alors, on est dans le Piémont italien. C'est donc au nord du pays. La capitale de la région, c'est Turin. C'est dans ce Piémont que se trouve le lac Majeur, à la frontière avec la Suisse. Et dans le sud, il y a la région des Langues, qui se parcourt au fil des collines sur lesquelles des villages se sont perchés. C'est là qu'on trouve la très jolie ville d'Alba.
Et oui, c'est le berceau de la truffe blanche, il Tartufo di Alba. Ouais. On la considère comme un des champignons les plus rares, les plus aromatiques et le plus cher au monde. Il Bianco d'Alba est considéré par les gastronomes comme le bien le plus précieux et goûté qui soit.
Si je puis me permettre, j'ai un petit peu peur qu'on se mette à dos tous les producteurs de truffes noires en France.
Mais non. Alors, il faut être clair. D'abord, les saisons ne sont pas les mêmes. La saison de la truffe blanche s'achève là. Pour ce qui est de la truffe noire, la tuber melanosporum, la saison commence seulement maintenant. Donc, elles ne sont pas concurrentielles. Mais un homme a fait le travail, l'entrepreneur Giacomo Morra. Il fonda en 1930 la Tartufi Morra Alba, première entreprise à commercialiser et transformer la truffe blanche d'Alba. Il a eu cette brillante idée de créer la foire de la truffe d'Alba, qui attire toujours des milliers de visiteurs du monde entier. Et pour la faire connaître, Morra eut l'idée d'offrir chaque année, à l'occasion de la foire, la truffe la plus grosse à des personnages célèbres de l'époque. Marilyn Monroe, Winston Churchill, Hitchcock, et peut-être vous, Agnès.
Mais j'aimerais bien. Mais alors, juste
il
une petite question.
Il
n'avait
pas oublié de l'offrir surtout au patron du Time, qui a écrit dans le Time que c'était le plus beau champignon et le mets le plus goûteux qui soit, d'où la réputation un peu aussi.
En tout cas, le produit est fragile, on le sait. Comment le conserve-t-on ?
Comme tous les autres truffes, demande une conservation dans un endroit humide. Souvent, d'ailleurs, on le met dans un bol de riz. Et surtout, pas exposé à la lumière, ni au réfrigérateur. Par contre, on peut la congeler. Mais moi, je vous conseille de la manger fraîche et surtout, elle ne se cuit pas. Il faut vraiment la déguster telle qu'elle. Et moi, j'ai fait des pâtes.
Ah, j'adore. Et surtout, vous m'invitez.
Oui, bien sûr.
Vous faites des pâtes et vous m'invitez. C'est la fin de la phrase.
Bah, autant que Stéphane.
Alors, soit on fait des pâtes fraîches, ça va très vite faire des pâtes fraîches maison. 100 g de farine, un œuf, c'est tout. Donc, on mélange et on fait des pâtes fraîches, on coupe.
Oui, c'est si simple.
On fait des fettuccini. Oui. Après, je fais revenir dans un petit peu de beurre et d'huile d'olive une gousse d'ail, juste pour donner un petit goût subtil. Je coupe un peu de truffe à l'intérieur.
D'accord.
Donc on a juste chauffé l'huile et le beurre. Hors du feu, on coupe un petit peu de truffe. Elle va infuser.
Je le sens d'ici, moi.
Voilà, on va cuire nos pâtes. Alors ça prend très peu de temps, 3 minutes maximum.
Al dente.
Et après, al dente. Après, vous allez battre un jaune d'œuf avec du parmesan. Et vous allez à froid, mélangez les pâtes. Donc, dans votre poêle où il y a déjà de la truffe, vous mélangez, ça donne une onctuosité parce que la crème, elle va cacher le goût en général. Et l'œuf va sublimer le goût de la truffe.
D'accord.
Et puis, bien sûr, au moment de passer à table, dans les assiettes, on y va ! On râpe la truffe fraîche oui. par-dessus.
Mais oui, parce que ça coûte pas cher du tout en plus. Oui, non.
Si, ça coûte cher. Ouais.
Bah, merci de le rappeler.
Ça se fait aussi avec de la truffe noire. Hein. C'est voilà. tout aussi c'est... bon. Mais alors, vous savez qu'il y a une autre odeur qui plane sur Alba. Une douce odeur de chocolat qui est
ah
dans
bon
l'atmosphère. Ben oui, parce qu'Alba est le berceau des usines Ferrero. Née à la fin des années 40 à l'initiative d'un pâtissier du cru, Pietro Ferrero. Et donc, tout ce que les usines Ferrero font de pâtes à tartiner et autres rochers ouais. sont faits là-bas. Et
ces rochers qui font toujours un succès.
Ah bah,
des soirées de l'ambassadeur.
Exactement.
Et alors, que faut-il voir dans la ville ?
Alors, il y a une cathédrale de style gothique lombard qui possède à l'intérieur des stalles de bois absolument exceptionnelles de 1512. 35 sièges marquetés avec des images de paysages, d'instruments de musique, d'églises. C'est pratiquement unique au monde. Alba est également riche de jolies maisons qui se révèlent au fil d'une balade, comme la Loggia del Mercanti du 14e, sur la place de la Biblioteca Civica, on peut jeter un coup d'œil à la Casa d'eau, maison médiévale, avec là encore des décors en terre cuite. Et tout cela n'est pas vraiment gourmand, allez-vous me dire?
Oui, alors que vous aviez promis que cette balade le serait.
Il est
un
vrai.
Un peu déçu.
Mais alors, on va sortir justement d'Alba en allant vers le sud. Et là, très rapidement, les paysages vont devenir des paysages où il y a des vignes. Dans une succession de vallées d'où émergent quelques clochers, quelques tours médiévales. Et voilà Barolo, le berceau d'un des meilleurs vins de toute l'Italie. Et pour ne rien gâcher...
Pour ne rien gâcher,
le village a beaucoup de cachets à l'image du château Faletti. Mm-hmm. Date du 11e, il a été construit pour défendre le coin des attaques sarrasines avant d'être racheté par un riche banquier du nom de Faletti à la fin du 16e. Et c'est grâce à la petite fille de Colbert, devenue marquise Faletti, que le Barolo a connu la gloire. Elle avait fait venir un œnologue bourguignon. Pour cela, les Romains avaient exporté le vin dans toute l'Europe. C'est un juste retour des choses que les Français donnent le meilleur vin à l'Italie. Et est-ce que le nom de Cavour vous dit quelque chose?
Oui, celui qui a permis à l'Italie de se réunifier.
Cavour, il en fut maire. Et dans le château dans lequel il habita, la salle des masques possède un plafond peint du 16e qui raconte le mariage de deux tourtereaux locaux. C'est unique et pittoresque. Il y a dans le reste du château des expositions et des vitrines qui racontent le vin dans toute la région.
Et je suppose, Jean-Sébastien, qu'on continue dans le même registre.
6 km de Barolo, vous allez découvrir la Mora, village perché qui remonte au 12e. Ce sont les moines bénédictins qui ont trouvé ici de nouvelles terres cultivables, et le Barolo, lui, a trouvé une terre de prédilection. L'église di San Martino porte bien ses 4 siècles d'existence et son style baroque affirmé. C'est à proximité de cette église qu'on trouve le Belvedere, resto plus que recommandable. Et là, vous allez goûter l'agneau des langues, qui est d'une tendreté extrême, et le chef fait des risotti de compétition. En saison, je peux vous assurer que le risotto à la truffe blanche, c'est un des plus grands moments de jouissance qu'il m'ait été donné de connaître.
Ah, carrément.